un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi 11h30. En direct, la chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, présenté par Jean-Louis.
C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je vis en liberté.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 22 juin. Depuis les studios de Radio Libre en Périgord, je vous propose dans cette chronique du groupe Fred Zeller d'aborder plusieurs sujets, à commencer par quelques mots sur le meeting de Londres, qui s'est donc tenu samedi dernier 20 juin à Londres, dans les lieux mêmes pratiquement où avait été proclamée la première internationale par Marx et Engels. Et ce meeting a été un énorme succès, de par la participation de plus de 3000 personnes, mais également par le soutien apporté très activement par 14 syndicats nationaux de différents pays, et dont par exemple le syndicat Unison de Grande-Bretagne, qui regroupe 1 400 000 adhérents, c'est le plus gros syndicat d'Europe des services publics, et plus de 100 organisations et associations, dont l'Association internationale de la libre pensée. Et ce meeting avait été précédé, vendredi 19 juin, d'une préconférence à laquelle avaient participé 600 représentants de ces syndicats nationaux, organisations, etc., qui avaient jeté les bases de ce que pouvait produire ce meeting. Et des propositions extrêmement précises ont été faites d'initiatives internationales. Le 10 octobre, vous pouvez noter déjà ça sur vos agendas, le 10 octobre, une journée internationale pour la Palestine, et le week-end du 21-22 novembre, un week-end contre la militarisation et la conscription. C'est donc un week-end dans lequel nous allons travailler essentiellement en direction de la jeunesse, puisque le sujet de la militarisation et de la conscription concerne bien évidemment les jeunes. Cela nous ramène à l'appel des jeunes, dont j'ai déjà parlé à ce micro, « Nous n'irons pas à la guerre ». Et cela rappelle pour les plus anciens d'entre nous le combat mené par Louis Lecoing pour arracher le droit à l'objection de conscience. Ça avait été un combat militant extrêmement important. Alors bien évidemment, le groupe Fred Zeller inscrira son action dans le cadre de ces initiatives internationales pour y participer le plus activement possible. Et nous reviendrons bien évidemment sur le meeting de Londres et les décisions qu'il a prises dans de prochaines chroniques, et notamment dans la soirée débat contre la guerre qui va se tenir le mardi 30 juin au cinéma Le Rex de Sarlat. Ciné-débat avec donc comme film introduisant la discussion le film de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, et suivi d'une discussion, d'un débat, introduit par Pierre Roy, historien, auteur d'un livre monumental sur les monuments pacifistes en France, et qui interviendra donc sur contre la guerre, et en illustrant bien évidemment par ce qui s'est passé en 14-18, avec notamment le combat que mène la libre pensée pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple, ce qui n'est toujours pas réglé. Et je rappelle évidemment, puisque cette initiative se tient à Sarlat, qu'à proximité de Sarlat, à Saint-André-à-Lasse, cette commune, un jeune Antoine Royer était originaire de cette commune et avait été fusillé pour l'exemple. La mairie a assez récemment déposé une stèle devant le monument aux morts de la commune. Et nous avions d'ailleurs fait un rassemblement un petit peu avant le 11 novembre de l'année dernière. Et là, cette année, nous allons réfléchir à de nouvelles initiatives pour mettre en valeur cette initiative qui est extrêmement importante dans le cadre donc du combat pour arracher la réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Voilà. Donc, bien évidemment, nous reviendrons très largement sur ce meeting de Londres qui est extrêmement important. C'est un élément essentiel de mobilisation contre la marche à la guerre qui se déroule dans tous les pays d'Europe et plus large, bien évidemment, bien au-delà. Et les organisateurs, d'ailleurs, de ce meeting ont bien noté la nécessité de donner une forme de traduire en organisation peut-être les prémices d'une internationale contre la guerre. Je ne sais pas si l'expression est la bonne, mais quelque chose qui ressemble un petit peu à ça pour franchir un cran dans l'organisation, dans la mobilisation contre la guerre. Alors je voudrais maintenant saluer la mémoire de Jean Ziegler. Peut-être que peu d'entre vous connaissent Jean Ziegler. C'était un député suisse qui a notamment écrit un livre qui est incendiaire contre le trust Nestlé. Le titre, je crois, c'est « Une Suisse au-dessus de tout soupçon », et dans lequel il montre comment les hommes du marketing de Nestlé sont allés investir tous les pays d'Afrique pour y vendre des tonnes de lait en poudre, en faisant une pression extraordinaire auprès des maternités, de tous les organismes occupant des nouveau-nés, dans un continent où le problème de l'eau de qualité est absolument essentiel, hein, où très très souvent l'eau est de très mauvaise qualité et souvent l'origine de maladies, fait amener un lait en poudre qu'on doit donc mélanger à de l'eau pour le donner aux nourrissons, c'est les condamner à mort. Voilà, donc Jean Ziegler s'était élevé contre ce trust Nestlé dans ce livre « Une Suisse au-dessus de tout soupçon ». Jean Ziegler est décédé le 10 juin dernier, il avait 92 ans. Il a été professeur de sociologie à l'Université de Genève, mais aussi en France, notamment à Paris 1. Et il a marqué la vie politique de la Confédération suisse en sa qualité de conseiller municipal de Genève de 1963 à 1967, puis de membre du Parlement fédéral de 1967 à 1983, puis de 1987 à 1999. Socialiste, il fut un authentique progressiste, inspiré par le marxisme et un anticolonialiste convaincu. Au début des années 70, le député suisse Jean Ziegler a œuvré en faveur de la reconnaissance de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, comme partenaire diplomatique. Rapporteur spécial pour l'alimentation du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. De 2000 à 2008, il fut membre du comité de parrainage du tribunal Russell sur la Palestine, au sein duquel siégea notamment la regrettée Leïla Shahid. Son soutien à la révolution algérienne et son action en faveur du peuple palestinien lui valurent une immense reconnaissance des peuples du Sud global. La libre pensée a parfois bénéficié de l'aide désintéressée de Jean Ziegler. En particulier en 2020-2021, il prit le temps avec Leïla Shahid de nous aider à faire connaître le numéro 332 de la revue L'Idée Libre intitulé « Israël versus Palestine ». Je crois que nous avons dans la bibliothèque du groupe Fred Zeller encore quelques exemplaires de ce numéro de L'Idée Libre que vous pouvez bien évidemment vous procurer en prenant contact avec le groupe Fred Zeller. Un grand humaniste nous a quittés. La Libre Pensée française, FNLP, l'Association internationale de la Libre Pensée, salue sa mémoire. Et alors, j'ai un petit texte de Michel Godichaud qui écrit... Jean Ziegler, donc 2026, pardon. Jean Ziegler s'est éteint le 10 juin dernier. Je redoutais ce moment. Je considérais cet homme comme un cadeau précieux. Je connaissais sa réputation d'homme courageux et, alors que j'étais encore étudiant, je me demandais quel était ce jeune socialiste suisse au franc-parler si réconfortant. Je l'ai rencontré des décennies plus tard, alors qu'il était déjà âgé et en retrait de ses fonctions à l'ONU. Une de ses rencontres fut dans le bureau qu'il avait conservé près du lac Léman. Arrivé un peu en avant, je m'étais installé prendre un café dans le bar qui occupait le rez-de-chaussée. Le patron du bar m'avait repéré et est venu me parler. « Vous attendez Monsieur Ziegler ? Vous avez de la chance. » Et comme l'attente se prolongeait, c'est un voisin qui est venu me tenir le même propos. Jean Ziegler suscitait le respect. Cet homme chaleureux était passé du protestantisme au catholicisme, avait lu Marx, admiré Guevara et m'appelait camarade. Non seulement je l'acceptais, mais je lui rendais l'appareil sans rechigner. Cela amena Jean Ziegler à collaborer avec la presse des libres penseurs. J'aimais ces appels téléphoniques impromptus pour le plaisir de discuter d'un article, d'un projet ou d'une émission. La voix de Jean Ziegler ne s'éteindra pas, nous dit la journaliste Gabrielle Lefebvre dans l'hommage émouvant qu'elle lui rend. Et elle a raison, car depuis son rôle de rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation, il constatait que selon la FAO, l'agriculture mondiale pourrait aujourd'hui nourrir normalement 12 milliards d'humains, presque le double de l'humanité. Un enfant qui meurt de faim est assassiné. Jean Ziegler affirmait là un point de vue tenace déjà énoncé fermement en 1998. À notre question « Pourquoi dites-vous que les mafias sont le stade ultime du capitalisme ?» Il répondit « Le capitalisme de la jungle, celui qui est pratiqué dans les classes dirigeantes des sociétés démocratiques d'Occident, maximalise le profit, critique la loi, le marché devient l'instance suprême de toute vie sociale, politique. » Il affaiblit les gouvernements et les forces immunitaires de la démocratie. C'est dans ce contexte que s'installe le crime organisé, qui devient ainsi le stade ultime du capitalisme. On est proche d'une rupture de civilisation. La démocratie occidentale, elle, peut mourir. Les seigneurs du crime sont parmi nous. Ils vivent des vies mondaines fastueuses, puisqu'ils peuvent s'acheter des protections politiques nécessaires à leurs agissements. Un autre citoyen suisse, James Guillaume, écrivait en 1869 « La libre pensée, si elle reste étrangère au socialisme, ne comptera jamais dans ses rangs que quelques amateurs de philosophie. Sa voix ne s'éteindra pas car elle touche là au nœud du problème, celui que les penseurs libres et libres penseurs ne peuvent contourner. » Une des dernières prises de position publique de Jean Ziegler avec la libre pensée fut en 2023 l'appel international des libres penseurs des anciennes puissances coloniales à leurs frères et à leurs sœurs des peuples opprimés et exploités d'Afrique, aux côtés notamment de son ami Pierre Galland, pour la liberté des peuples, contre toute ingérence politique, économique, militaire, pour la liberté de penser et contre toute oppression religieuse. Dans son combat aux côtés du peuple palestinien, il était un des membres fondateurs du tribunal Russell pour la Palestine, pour la libération de Nelson Mandela, pour les peuples d'Afrique, contre leurs oppresseurs coloniaux. Jean Ziegler était cohérent. Nul doute qu'on se souviendra de lui à Kinshasa, au moins autant qu'à Zurich. Un de ses derniers livres avait pour titre « Le capitalisme expliqué à ma petite fille ». À 90 ans, il avait, lui, parfaitement conscience que c'était de ce côté-là qu'il fallait chercher la solution. Voilà, c'était donc les propos de Michel Golis-Chaud en hommage à Jean Ziegler, donc disparu le 10 juin dernier. Je voudrais maintenant vous porter à votre connaissance un texte de soutien à la professeure Sophie Gigot, qui a été donc déboutée dans le procès qui l'opposait à l'extrême droite responsable de son harcèlement. Un jugement qui met en danger le corps enseignant dénonce donc les signataires de cette tribune que je vous lis. La 17e chambre du tribunal de Paris, spécialisée dans le droit de la presse, a rendu un verdict qui met tous les enseignants et chercheurs en danger. Statuant sur l'affaire qui oppose Sophie Gigot à des responsables d'extrême droite qu'elle accuse d'avoir orchestré une campagne de harcèlement extrêmement violente à son encontre, notre collègue professeur de philosophie s'est vu débouté de sa demande. Retraçons les faits. Durant l'année 2022-2023, Sophie Gigot organise avec ses étudiants d'Hippocagne, dans le cadre d'un projet interdisciplinaire intitulé « Exil et frontières », son sujet de recherche, une sortie à Calais comprenant notamment une rencontre avec des bénévoles de l'association « L'Auberge des migrants ». Il n'en faut pas plus pour déclencher l'ire d'une enseignante du même établissement, porte-parole locale de l'association zémourienne Parents Vigilants, dont le protocole d'action est désormais bien connu, publication sur les réseaux sociaux d'un communiqué sous forme d'une alerte, divulgation de l'établissement, puis de l'identité de l'enseignant, et reprise coordonnée de l'attaque par différents comptes d'extrême droite. Cette fois, ce sont les comptes officiels du parti Reconquête et d'Éric Zemmour qui diffusent quasiment immédiatement, entre guillemets, l'information, ce dernier parlant de « grand doctrinement » et affirmant que Sophie Gigot avait, citation, « décidé d'enrôler ses élèves dans des activités pro-migrants à Calais ». Un communiqué officiel est publié par Reconquête, suivi d'un second émanant de la section Hauts-de-France du RN, du Rassemblement national. Le blanc-seing de cyberharcèlement est ainsi donné et les comptes anonymes, tout lien avec la fachosphère, s'en donnent à cœur joie. Qu'on lui tonde le crâne, qui est cette collabo, prof de merde, cruche sans ceinture de chasteté, jusqu'aux menaces de mort et de viol. Certains messages haineux sont en réponse directe au tweet d'Éric Zemmour. Les vannes ouvertes, on n'attendait plus que l'analyse circonstanciée du site d'extrême droite Riposte laïque, se découvrant des aptitudes pédagogiques pour émettre un docte jugement sur le travail de Sophie Gigot, qu'il conseille de virer et qualifie d'abruti. Pour des raisons de sécurité, la visite est annulée. Bien sûr, les réseaux zemmouriens s'en félicitent. Mais le cyberharcèlement redémarre 2 ans plus tard à l'occasion de l'assassinat de Dominique Bertrand, professeur dans un lycée d'Arras. Il faut donner son adresse au prochain enfoiré d'islamistes qui tuera encore et encore et encore, écrit un courageux anonyme sur Twitter. Si 5 personnes identifiées comme auteurs directs de certains tweets orduriers ont été condamnées le 20 mars dernier pour cyberharcèlement, les responsables des divers articles ou communiqués initiaux, que l'on peut qualifier de meneurs d'opinion, s'en sortent sans aucune condamnation. Le tribunal ayant considéré hier que les propos relèvent du débat d'idées mêlé d'un procès d'intention fait à Sophie Gigot, c'est une citation, mais qu'ils ne sont que blessants, pas diffamatoires. Le délibéré ajoutant plus loin que « ce débat essentiel dans une démocratie où l'école remplit une fonction émancipatrice est en effet de nature à intéresser le public ». Fin de citation. On se frotte les yeux. Accuser une professeure et chercheuse d'endoctriner ses étudiants serait donc une opinion comme une autre. Et bien, j'ai un petit problème de texte qui me manque. Je vous demande m'en excuser, j'ai eu un petit problème d'impression et donc je vous mettrai le texte complet donc sur le site de du groupe Fred Zeller. Excusez-moi de ce petit souci. Et alors je voudrais maintenant passer sur un autre sujet. Là je pense avoir le texte complet, bien évidemment. Il s'agit donc d'un appel pour le retrait du projet de loi Nunez. Le vendredi 3 avril 2026, le ministre de l'Intérieur Nunez a annoncé un projet de deuxième loi de lutte contre le séparatisme qui, déclare-t-il, vise à durcir la loi séparatiste de 2021. Voilà qui a de quoi alerter et mobiliser tous ceux qui sont décidés à lutter contre la dérive raciste du régime de la Ve République, car la loi séparatisme de 2021, censée conforter les principes républicains, est en fait un dispositif mis en œuvre pour discriminer, persécuter une partie de la population, celle qui, issue de l'immigration, est suspectée de constituer un danger, tout simplement de par ses origines et donc contre les fondements mêmes des principes républicains frauduleusement revendiqués. En continuité avec cette orientation, les cibles de son projet de loi cité par Nunez font exclusivement référence à les organisations musulmanes. On a fermé énormément de structures qui étaient dans le séparatisme islamique, indique-t-il. Un tel acharnement, un tel parti pris sont scandaleux, quelques mois après que l'affaire Betaram ait éclaboussé jusqu'au sommet de l'État, après que le rapport Sauvé ait mis au grand jour le caractère criminel d'un système mis en place au sein de l'Église catholique qui a fait des centaines de milliers de victimes, dont une majorité d'enfants, après que le dossier Epstein ait commencé à révéler l'ampleur des réseaux pédocriminels au cœur de l'élite autoproclamée de la société, car tout cela est totalement ignoré par Nunez. Citons de nouveau le ministre de l'Intérieur. Il y a un certain nombre de structures que l'on ne peut atteindre à droit constant dont on modifie le droit. Formulation fort inquiétante. Manifestement, dans la rhétorique utilisée, sont en facteur déterminant de l'évolution du droit les cibles que l'on veut atteindre, non les principes qui sont censés être garantis. Lors de la séance des questions à l'Assemblée nationale, le ministre précise « Va être soumis au Conseil d'État un motif supplémentaire de dissolution qui vise à prendre en compte les nouvelles méthodes mises en œuvre des frères musulmans qui visent plutôt à faire pression » à prendre le contrôle pour imposer une loi religieuse. » Fin de citation. Pour ce qui est de faire pression pour prendre le contrôle, chacun d'entre nous a plutôt été conforté, ne serait-ce que dans le domaine particulièrement visible des médias, à l'activisme des Bolloré, Arnaud et autres d'Also, d'une toute autre ampleur que celui des frères musulmans. En matière de gestion de l'application du contrat d'engagement républicain, outil de mise sous contrôle des associations instaurées par la première loi séparatiste. Les préfets verraient leurs prérogatives étendues au détriment des élus municipaux, renforçant ainsi la menace contre un pilier de la démocratie, l'indépendance des associations des citoyens. Comble d'ignominie et autres motifs impératifs de résistance. Les mineurs sont ciblés par le projet. On a un sujet sur l'accueil collectif des mineurs. Il faut qu'on puisse tous les contrôler. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Fin de citation. Honte à ce régime et à son indigne inversion des priorités. La question concernant les mineurs n'est pas pour Nunez de s'assurer qu'ils bénéficient tous, notamment les mineurs isolés, à égalité de droits et d'où qu'ils viennent des garanties de la protection de l'enfance, mais de s'assurer que ceux que l'on jugera susceptibles d'être influencés par l'islam soient contrôlés et traqués. Les gouvernements Macron ne s'en prennent pas aux riches qui fraudent, aux capitalistes qui font des bénéfices en exploitant les travailleurs et les licencient, aux marchands d'armes qui font fortune en fournissant les assassins qui font le génocide à Gaza et en Palestine. Non, ils s'en prennent toujours à la partie de la population qui, la plus exposée à l'injustice, est aussi celle dont la détermination dans le combat légitime pour la conquête de ses droits peut devenir le catalyseur de la résistance de l'ensemble des exploités. Les travailleurs immigrés, dont ils assurent l'insécurité en permanence par une répression policière accrue, et maintenant à des enfants séparés de leur famille par la guerre, l'exploitation et le colonialisme, et tout cela au nom d'une croisade contre les musulmans. L'émergence de ce projet doit aussi alerter tous ceux qui sont déterminés à lutter contre le fascisme, car cette nouvelle avancée de l'arbitraire dans le cadre des institutions actuelles serait un pas supplémentaire significatif de la dérive autoritaire du régime, une dérive autoritaire qui ouvre la voie au fascisme. Retrait immédiat du projet de loi Nunez, abrogation de la loi séparatiste de 2021, égalité des droits, accueil et scolarisation pour tous les mineurs isolés. Et j'aurais prolongé ce texte par une présentation de la déclaration sur les mineurs non accompagnés. L'Association internationale de la libre pensée est régulièrement invitée comme observatrice aux travaux annuels de la Conférence internationale du travail de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, organisée donc par le Bureau international du travail à Genève. Cette année, lors de la 114e conférence du 1er au 12 juin, deux réunions parallèles de délégués et observateurs se sont tenues à son initiative et à celle de délégués africains autour des conventions internationales régissant les droits des mineurs et ceux des travailleurs migrants. Il en est résulté cette déclaration dont voici les premiers signataires. Donc, il y a toute une liste que, bien sûr, je ne vous lirai pas, elle est très très longue. Elle est destinée à toutes les parties prenantes des pays concernés dans l'objectif de constituer un point d'appui aux mobilisations pour améliorer les conventions et s'opposer aux projets destructeurs des droits. Voilà. Et donc la déclaration sur les mineurs non accompagnés est la suivante, donc dans la version française, hein, on a dans le texte version anglaise. Donc la 114e convention a examiné le bilan de l'application des normes de l'OIT. Ces normes, en ces conventions les 138 et 182, protègent le travail des mineurs. La convention 182, en garantissant le droit à l'éducation, reste un précieux instrument de droit international. En effet, l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, repris par les articles 28 et 29 de la Convention internationale des droits de l'enfant, CDE, garantissent l'accès à une éducation de qualité dans le respect des objectifs déclinés dans les instruments internationaux. Les mineurs isolés, jetés sans assistance sur le chemin de l'exil, ne bénéficient guère de ces conventions, ni dans leur pays de transit, ni dans ceux de leur destination finale. Ils n'ont ni nourriture, ni logement, ni soins, ni éducation. Leur minorité est souvent contestée et les procédures dont l'exécution est sous-traitée les conduisent à vivre dans un état de précarité permanente. L'OIT est déjà intervenue directement. Cependant, les associations qui organisent la solidarité envers ces jeunes peinent devant la tâche et les obstacles. En mars 2026, le Parlement européen a adopté un règlement intérieur dont l'application légitimant la rétention administrative, la sous-traitance des procédures et les mesures de police attentatoires aux libertés constituerait une nouvelle menace. Nous voulons, par cette déclaration, souligner que la solidarité internationale des travailleurs et des associations de défense des libertés sont acquises d'office à ces jeunes et demeurent un droit international humanitaire. Nous soutiendrons leurs droits dans les instances de nos pays comme à l'international. Voilà. Et donc, ça, c'était cette déclaration sur les mineurs non accompagnés. Alors, j'ai un dernier texte que je peux vous lire, qui est très court, qui est sur un tout autre sujet sur lequel on reviendra, parce qu'il y a tout un dossier qui a été publié dans la revue La Raison sur la question de la crémation. Et c'est une question importante, puisque pendant très très longtemps, et je dirais encore aujourd'hui, la crémation est rejetée par le dogme catholique. Et c'était un grand combat des libres penseurs, notamment dans les siècles précédents, pour pour que les personnes et familles aient le choix donc de la crémation. Donc il y a un message, il s'est tenu l'Assemblée générale de la Fédération française de crémation, à laquelle la Fédération nationale de la libre pensée a adressé le message suivant. La libre pensée dénonce les projets législatifs mettant en péril la liberté de conscience, la liberté d'expression et la liberté d'association qui sont actuellement programmés. Un projet de loi évoqué par le ministre de l'Intérieur est en préparation qui, selon sa propre expression, vise à durcir la loi séparatiste de 2021, laquelle a pourtant déjà, il est utile de le mentionner, fait flamber le nombre des dissolutions d'associations. Sur 154 dissolutions d'associations en 90 ans, près d'un tiers, soit 47, ont eu lieu durant les 9 années de la présidence d'Emmanuel Macron. Et donc, bien évidemment, ça fait référence au sujet précédent hein, où j'ai évoqué l'appel donc, qui s'est constitué pour condamner l'initiative du ministre de l'Intérieur. Dans ce contexte, le mouvement citoyen oppose une résistance louable à la pression qui s'exerce sur lui. La loi Yadan a dû être, au moins dans un premier temps, retirée. Les manifestations de soutien au peuple palestinien perdurent. L'hostilité, notamment de la jeunesse, à la propagande guerrière est manifeste. Les mouvements des secteurs de la santé et de l'enseignement, bien que localement circonscrits, sont fréquents et déterminés. La fermeté de nos associations sur leurs finalités respectives et sur leurs engagements communs sont des points d'appui essentiels pour cette résistance citoyenne. Le récent épisode du combat pour le droit à mourir dans la dignité est une illustration de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Bien que le Sénat ait décidé de jouer le rôle de barrière ultime de la réaction, un pas a été franchi avec le vote de l'Assemblée nationale d'une loi, certes perfectible, mais reconnaissant le principe que nous défendons. Et le débat a mis en exergue une évolution irréversible et constante chez nos concitoyens depuis maintenant des décennies, la progression constante de l'aspiration au libre arbitre vis-à-vis de tous les interdits dictés par les dogmes, quels qu'ils soient. En 2012, 58% étaient favorables à l'euthanasie, enquête TNS Sofres, un chiffre qui grimpe à 83% en 2023, selon l'enquête de Cluster 17. C'est du reste. Cette évolution vers des comportements de plus en plus conformes à votre objet social, le droit à la liberté des familles, le droit à la liberté de ses funérailles, qui a conduit votre association à infléchir son axe d'intervention, qui, si nous interprétons correctement les choses, se focalise à présent sur le soutien pratique à la possibilité pour tous ceux qui le souhaitent de faire respecter leur volonté. Nous vous souhaitons tout le succès possible dans ce combat qui nous est cher, car nous considérons que la liberté de conscience est indissociable de la liberté de disposer son corps lors de sa fin de vie. Donc c'était le message de la Fédération nationale de la libre pensée à l'Assemblée générale de la Fédération française de crémation. Voilà, donc j'en ai terminé avec les sujets d'aujourd'hui. Et pour conclure, je voudrais rappeler en particulier la soirée ciné-débat dont j'ai parlé en tout début de chronique. Donc, soirée débat qui va se tenir le mardi 30 juin à 20h30 au cinéma Le Rex de Sarlat. Ciné débat avec la projection du film de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire. Débat introduit par Pierre Roy, historien, spécialiste du combat pour la reconnaissance la reconnaissance des fusillés pour l'exemple, la réhabilitation des fusillés pour l'exemple, spécialiste du recensement de tous les monuments pacifistes de France et qui donc sera présent. Malgré son âge bien avancé, il a accepté de venir et donc dans les conditions que nous connaissons actuellement de météo, c'est vraiment un effort important pour lui. Nous vous invitons à venir nombreux à cette soirée cinéma. Et par exemple, au départ de Périgueux, nous essayons d'organiser un covoiturage pour ceux qui le souhaitent. Donc prenez contact avec le groupe Fred Zeller pour participer à cette soirée ciné-débat. Je remercie Antoine qui a assuré la technique pour cette chronique du groupe Fred Zeller. Et je vous donne rendez-vous donc lundi prochain. Ce sera le 29 juin, pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller, toujours sur Radio Libre en Périgord.
En forgeant un socle de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi
11h30.